RCF.
Nous diffusons aujourd'hui une conférence donnée le mardi 9 juin à la Maison diocésaine par M. Stanislas de Narmina, ingénieur agronome, spécialiste en bioéthique sur le thème de l'écologie divine. M. Narmina a écrit plusieurs ouvrages parmi lesquels « Les contre-vérités de l'écologisme »,« L'écologie chrétienne n'est pas ce que vous croyez » et « Climat, si la liberté rendait libre ».
Voilà, écoutez, très heureux de vous accueillir. On est content que les groupes reviennent et que, même si on est obligé de faire des distances très sanitaires, heureux de pouvoir avoir cette soirée. Donc avec Stanislas de Narmina, je connaissais surtout bien son frère, on a eu l'occasion de nous croiser également, qui est ingénieur, mais il va peut-être se présenter lui-même et nous expliquer un peu ce qu'a été sa carrière. Ce soir, nous accueillons un pèlerin, puisque vous faites le tour de France des sanctuaires Mario. Et pour porter à la fois vos convictions, vous laisser déplacer, et vous avez trouvé que le sujet était suffisamment important pour vous mettre en marche à la rencontre de ceux qui veulent bien. Alors ce soir, il y a ceux qui sont dans cette salle boulard de la Maison diocésaine, et nous rejoignons également tous ceux qui sont à domicile, relayés par les réseaux sociaux, également par le site internet du diocèse. Et puis nous apercevons un micro RCF, puisque la conférence sera enregistrée, qui permettra de la passer plus tard. Voilà. Bon, je ne sais pas comment introduire le sujet, je vais l'introduire certainement très mal. Il est évidemment question d'écologie, des questions de Laudato Si, puisque c'est un refrain que nous entendons partout. Mais c'est aussi la difficulté que nous pouvons avoir, et nous l'avons expérimenté peut-être en cette période de confinement, en période de pandémie, d'avoir une approche scientifique correcte et qui, à la fois, ne se laisse pas forcément entraîner dans des caricatures ou des fake news dont on entend parler. Alors, c'est à la fois cette réception, à la fois, puis de pouvoir avoir un regard de croyant sur la création, sur l'homme. Enfin, je vous donne un beau menu quand même. Vous allez traiter tout cela ce soir. Donc, merci en tout cas d'être présent. Donc, monsieur de Narmina et donc Perrin, il a marché 26 km aujourd'hui, en venant de.
Ravo, c'est un petit bled, à 26 km au nord d'Angoulême.
Voilà. Et donc, continuera après sa route. Il a une petite pause demain. Il permettra de rencontrer aussi d'autres personnes et repartira jeudi matin direction Bordeaux.
Barbezieux, la première.
Oui, je vais parler de Barbezieux plus que de Bordeaux. Pour aller vers Lourdes, où vous allez avoir. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous et puis aidez-nous à réfléchir. Et on va avoir un premier temps d'enseignement et puis ensuite on aura un temps de réponse un petit peu aux questions aux questions que vous vous posez, que nous nous posons. Voilà, puisque quand même la vérité, elle s'approche aussi par la controverse, par des questions, par un questionnement. Et ça ne va pas forcément de soi, c'est pas quelque chose qui s'accueille de manière entière sans avoir un esprit critique, ce que nous voulons avoir aussi ce soir. Merci à vous.
Merci de votre accueil, en tous les cas, et merci à vous d'être là. Bon, je ne vais pas revenir sur la présentation. Monseigneur Gosselin vient de dire tout ce qu'il y avait à dire sur moi. Je suis un pèlerin, comme beaucoup d'entre vous ont pu faire des pèlerinages. En fait, ce qui m'a amené à me bousculer, c'est la question écologique. Alors, le titre de ce soir, c'est « L'écologie divine ». Voilà encore un nouveau qualificatif que vous n'aviez sans doute jamais entendu. Vous aviez entendu parler d'écologie environnementale, d'écologie humaine, et voilà que je vous propose de parler d'écologie divine. Qu'est-ce que c'est que ce qualificatif ? Alors, je vais commencer par une romance de Saint Jean de la Croix, que je vous recommande de lire. Alors, c'est de l'espagnol, très, très ancien, mais alors je vais vous la raconter dans un style plus contemporain. Voilà, c'est avant, bien entendu, la création. Et le Père dit au Fils, écoute, je t'aime d'un tel amour et j'ai tellement peur de ne pas te combler que j'ai décidé de te donner une épouse. Une épouse, c'est l'homme, c'est l'Église, selon les théologiens, mais enfin, c'est quand même l'humanité. Et je parle sous le contrôle d'un évêque. Si à un moment je dis des âneries théologiques, n'hésitez pas à me reprendre. Donc le fils répond « Oh, excellente idée, moi qui t'aime d'un tel amour, mais qui ai tellement peur de ne pas te combler, que je vais prendre cette épouse et je prendrai sa condition. » Tiens, ça me fait penser à Noël, ça. Voilà le fils qui prend la condition. C'est prévu de tout temps, Noël. Et je prendrai mon épouse sous le bras et je lui apprendrai à chanter ta gloire. La gloire, la glorification, tiens, ça fait penser à Pâques. Alors, de là à dire que Noël et Pâques étaient prévus de tout temps, c'est un raccourci. Il y a peut-être quand même une chose qui n'était pas prévue de tout temps, c'était le péché originel, et donc le Vendredi Saint n'était pas dans le programme. Hein. Et d'ailleurs, Saint Jean de la Croix n'en parle pas à cet endroit-là, dans sa romance de la Création. Alors, cette épouse que nous sommes, c'est de nature divine, dès l'origine. Donc, nous sommes non pas appelés à participer à la vie divine, c'est bien plus fort que ça. Et moi, ça me donne des frissons d'entendre cette phrase de Saint Jean Irénée qui dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes appelés à être divinisés. Et c'est pour cela que je parle d'écologie divine, c'est parce que s'il n'y a pas cette conscience et cette conviction que nous sommes appelés à être divinisés, eh bien, nous aurons beau respecter la nature, si nous ne respectons pas la nature divinisable de l'homme, eh bien, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Alors, quand je parle du Vendredi Saint, il y a certains théologiens qui parlent du Big Bug. Il dit, bah oui, c'est comme dans un programme informatique, le mal n'était pas prévu. C'est comme un big bug. Et ce big bug, c'est pas par hasard si je parle de big bug, parce que il y en a qui vont même jusqu'à dire que le Big Bang n'est pas la preuve de l'existence de Dieu. Il y en a qui vont jusqu'à dire plutôt que ce serait plutôt la preuve de l'existence du péché originel. Donc ce big bug, c'est une rupture radicale entre la création et le monde naturel. Pourquoi je vous dis cela? Parce que il y a un risque, quand on parle d'écologie, à confondre le concept de création et de monde naturel. C'est saint Paul qui dit que le monde naturel a été corrompu par le péché. Ça veut dire que le monde naturel n'est pas dans l'état où était la création. La création était parfaite. Mais le monde naturel, c'est quelque chose qui a été corrompu. Donc déjà, il y a un mythe que j'aime bien ébranler, c'est le mythe de la nature bonne. La nature, elle n'est pas bonne en soi. Elle a, grâce à un concept théologique qui est la théologie de la création continuée, je dirais que le monde naturel est pétri de vestiges de la beauté de la création d'origine. Hein, quand on regarde nos paysages, quand on regarde la biodiversité, quand on regarde toutes ces choses-là, et quand on n'oublions pas l'homme, quand on regarde Sainte Thérèse et Mère Teresa et toutes ces créatures qui sont d'une beauté et d'une bonté admirables, ce sont des vestiges de la création d'origine, pour moi, enfin, tel que je le sens. Et donc, ce concept d'écologie divine permet de faire une première étape, c'est de faire attention à ne pas confondre la création et le monde naturel. Et Laudette aussi, également, parle de quelque chose qui a trait à cela, c'est, il parle de la nature trinitaire de toute la création avant la chute originelle. Hein, vous trouvez ça dans l'Odette aussi. Donc, il y a aujourd'hui encore des théologiens qui parlent de la nature trinitaire de toute la création et des éléments du monde naturel. Bien, donc, toute la création dans cette affaire-là, elle souffre, c'est saint Paul qui le dit, elle soupire et elle souffre des douleurs de l'enfantement. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Et elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Alors, avoir part, c'est quand même un sacré mystère, de se dire non seulement nous allons, à la fin des temps, ressusciter dans notre chair, mais toute la création, nous dit saint Paul, va avoir part à la gloire des enfants de Dieu. C'est quand même un mystère. Quelle part va avoir la création ? Que je sache, les animaux ne vont pas ressusciter. Il n'empêche que saint Paul nous parle d'une part de cette création à la gloire des enfants de Dieu. Alors, donc, vous voyez pourquoi je vous ai parlé d'écologie divine. Alors maintenant, c'est pas le tout, parce que nous sommes bel et bien les deux pieds dans la glaise, et le Concile nous dit qu'il faut pas rester comme ça à attendre que la Terre nouvelle arrive. Voilà ce que dit le Concile. L'attente de la nouvelle Terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette Terre, doit le réveiller. Donc on n'est pas là pour attendre simplement que l'Apocalypse vienne, nous sommes là pour cultiver la terre. Alors, je vais aller rapidement, parce que je pense que dans beaucoup de conférences sur l'écologie, on aborde ces questions de la Genèse. Hein. Dieu a appelé à cultiver et à garder la terre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce sont des mots qui en langue hébraïque font référence à garder comme un gouverneur garde son troupeau ou garde son peuple ou garde son territoire. Donc le garder comme un gouverneur sage. Et après, il y a également dans la Genèse emplissez et multipliez-vous. Et cela, j'en parlerai tout à l'heure, ça me paraît totalement à l'opposé d'un certain malthusianisme, et vous verrez que dans beaucoup de thèses écologiques, il y a souvent un petit peu de malthusianisme. Alors, Laudato Si nous a donné un chemin pour réfléchir à cette question de comment vivre notre écologie au quotidien, c'est l'écologie intégrale. Alors, ce mot d'écologie intégrale, il est utilisé très souvent. Je ne sais pas si chacun d'entre vous est capable de le définir. J'ai mis pas mal de temps à bien comprendre ce concept. En fait, c'est une pyramide. Vous avez des sommets et vous avez Dieu. Vous avez l'homme dans sa relation avec lui-même. Vous avez l'homme dans sa relation avec autrui. Et vous avez les créatures non humaines. Et cette pyramide est reliée. Tous les sommets sont reliés par un tissu de relations, et c'est l'unité de toutes ces relations qui va nous faire comprendre ce qu'est l'écologie intégrale. Une seule de ces relations serait-elle ébranlée, que c'est toute l'écologie intégrale qui s'effondre. Autrement dit, l'écologie intégrale, sans Dieu, par exemple, ça ne rime pas à grand-chose. Hein. Donc, tous ces liens amènent, bien entendu, dans Laudato Si, à évoquer cette phrase qui est répétée 9 fois, « Tout est lié ». Alors, « tout est lié », là aussi, il y a des risques d'interprétation qui peuvent déraper. S'il s'agit d'une simple relation de cause à effet, que je sache, par exemple, plus la sensibilité écologique se développe, plus il y a d'avortements. C'est pas tellement, on peut pas dire que tout soit vraiment très. Ce n'est pas du domaine de la liaison de cause à effet. Vous avez également j'ai entendu une fois une conférence de quelqu'un pourtant de très brillant qui disait plus la foi s'affaiblit, plus le climat se réchauffe. Comme si il ajoutait tout est lié. Comme s'il y avait une relation de cause à effet. Bon, c'était probablement un effet de manche, mais il n'y a pas de relation de cause à effet dans tout cela. C'est beaucoup plus compliqué que ça, Et c'est là aussi, Benoît XVI avait beaucoup écrit sur la théologie de la relation. La relation, alors je vais faire un petit peu de philosophie, c'est compliqué, mais vous avez deux types de relations. Vous avez les relations accidentelles. Je suis par hasard enfin le maître et l'élève, il a une relation, c'est accidentel. Et puis vous avez une relation de subsistance qui, elle, est beaucoup plus compliquée. Et c'est le mode d'existence de la substance que nous sommes. Et je vous lis pour simplement vous montrer à quel point cette théologie de la relation est compliquée. Je vous lis la phrase de Ratzinger. L'homme n'est plus un être de relation accidentelle, il est relation subsistante. Alors, même moi, je vais vous dire, je ne comprends pas forcément très bien. Mais il y a une chose que je retiens de tout cela, c'est que si on aborde Laudato aussi sans faire un petit peu de théologie de la relation, on risque de tomber dans un tout est lié qui serait des relations de cause à effet. Ce n'est pas cela, c'est plus compliqué que cela. Et en particulier, je vois un lien entre cette théologie de la relation et cette phrase qui est dans Laudato aussi, tout est trinitaire, toute la création est trinitaire. Alors maintenant, troisième partie que j'aimerais aborder, c'est l'écologie intégrale. Bon, ben, ce n'est pas l'écologie environnementale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pourtant, il faut bien parler un peu d'écologie environnementale. Si j'avais un message à faire passer ce soir, ce serait de vous dire « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et pourtant, de quoi n'avez-vous pas peur ? Des OGM, du réchauffement climatique, des pesticides, de ce que vous mangez dans votre assiette, des ondes téléphoniques, du nucléaire, de l'apocalypse que l'homme, dont l'homme aurait probablement l'initiative, ne parlons pas la peur du virus qui vient d'avoir lieu. Et puis, ce qui m'inquiète, c'est de voir que aujourd'hui, c'est la peur même d'avoir des enfants. La jeune génération aujourd'hui, il y a des mouvements qui viennent des États-Unis qui s'appellent « no kids », c'est-à-dire « pas d'enfants ». Les jeunes pensent qu'ils ont tellement peur qu'il ne faut pas avoir d'enfants pour ne pas détruire la planète. Et il y en a même qui vont encore plus loin, c'est « kill yourself », ça veut dire « suicidez-vous ». Pour sauver la planète, il y a des courants qui disent que un des meilleurs éco-gestes, c'est de ne pas avoir d'enfants. Alors vous allez me dire, les chrétiens sensibles à l'écologie ne sont pas animés de cette peur-là. Il n'empêche que ça pose la question de quelle pastorale devons-nous avoir, et en particulier la pastorale vis-à-vis des jeunes. Moi, je suis frappé de voir que j'ai une petite fille qui, un jour, je lui racontais ce que je pense de tout cela, et elle me disait « Mais enfin, tout ça est inaudible. Vous ne vous rendez pas compte à quel point nos amis, à l'école, au lycée, ont une peur panique de demain. Hein ?» Donc, vraiment, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Ce n'est même pas... D'ailleurs, c'est dans l'Évangile. Ce n'est pas chrétien de dire d'avoir peur. « N'ayez pas peur », disait le Christ. Et Jean-Paul II aussi. Alors, quelle pastorale pour l'environnement, l'écologie environnementale ? Je vais d'abord parler de ce que j'appelle... Je fais une distinction, si vous le permettez, entre l'écologie planétaire et l'écologie locale. Je vais commencer par la planétaire. Je tiens tout de suite à dire que l'écologie locale, il y a des pollutions, des milliers et des milliers de pollutions, et il ne faut pas les nier, elles existent, et il faut, bien entendu, s'employer à les réduire. Mais je commence par les pollutions planétaires, parce que ce sont souvent celles-là qui sont mises en avant dans les discours de peur. Or, les discours de peur paralysent. Hein, quand on n'a plus, on se dit, ça devient fatal. On n'est plus là pour agir. On est paralysé. Et puis la peur, elle a aussi un autre inconvénient, c'est qu'elle infantilise. Hein, parce que, en général, derrière la peur, il y a une simplification des problèmes, alors que les problèmes sont complexes. Donc, une pastorale qui se limiterait à des éco-gestes, j'ai tendance à dire attention, parce que on va finalement surfer sur ces réflexes de peur. La frugalité, c'est également un thème qui est important. Moi, je plaide beaucoup pour la frugalité, même si après un bon dîner, c'est pas toujours facile. La frugalité est une vertu qui n'est pas toujours facile à honorer. Mais en tous les cas, la frugalité par précaution me paraît un non-sens. La frugalité est une vertu parce qu'elle va m'aider à me tourner vers Dieu, me dépouiller pour mieux écouter Dieu et pour mieux écouter le cri de mes frères qui est dans la souffrance. La frugalité par précaution, c'est pas du tout ça. Hein. Ne parlons pas de la frugalité imposée, par exemple, par la période de confinement que nous venons de vivre, où ça va se terminer malheureusement par une forme de décroissance, et là, on va voir que la frugalité, ce n'est pas un cadeau. Hein. Il va y avoir une crise économique derrière qui est quand même complexe. Donc la frugalité, oui, à condition que ce soit une vraie vertu. Donc, dans tout cela, quelle pastorale avoir, et en particulier dans toutes les questions de risques planétaires. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une phrase du Concile. Il n'appartient pas. Les laïcs ne doivent pas attendre de leurs pasteurs qu'ils aient une réponse à toutes les questions, même graves. Et l'écologie peut apparaître comme une question grave. Donc, ni même que ce soit de leurs compétences, ils ont d'autres compétences, les pasteurs, ni même que ce soit leur mission. Autrement dit, une pastorale ne doit pas rentrer dans des réponses, concrètes, et encore moins dans des prises de parti scientifiques. D'ailleurs, je vous signale que dans Laudato si, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais dans tout le premier paragraphe qui parle de l'état de la maison, c'est quand même assez frappant de voir que à la fin, le dernier paragraphe de ce chapitre se termine par l'article 188 qui dit « L'Église n'a pas à prendre parti dans ces questions-là et j'appelle, dit l'encyclique, à un dialogue honnête et transparent. » Donc, vraiment, ce qui prime, si l'Église avait un parti pris à avoir, ce serait d'organiser le dialogue, mais pas de prendre parti pour l'un ou l'autre des sujets tels qu'ils sont abordés. Alors, je voudrais vous amener à partir d'un exemple. Par exemple, le réchauffement climatique, pour vous montrer à quel point ça a des conséquences sur la pastorale. Imaginez, je vous demande d'imaginer une seconde, enfin un petit peu plus d'une seconde, on va dire 10 minutes, pendant 10 minutes, imaginez que la cause humaine du réchauffement climatique soit fausse. Et vous qui êtes soit engagé, soit responsable d'animation de pastorale écologique, imaginez que ce soit faux, comment allez-vous orienter votre pastorale écologique à partir de ce moment où on vous dirait « c'est faux » Eh bien, je peux vous dire que ça changerait beaucoup de choses dans le discours quotidien de la pastorale. Hein. Alors, mon but ici n'est pas de prendre parti. Hein, j'ai bien entendu une conviction, je vais vous en dire deux mots, mais de la même manière que le Concile dit qu'il n'appartient pas au pasteur de prendre parti, j'ai même envie de dire qu'il n'appartient pas non plus à quelqu'un qui porte la casquette d'un responsable d'écologie dans un diocèse ou dans une paroisse, ou dans une conférence épiscopale, de prendre parti lui aussi, parce que de deux choses l'une. Ou bien il a sa casquette de représentant et de conseiller d'une pastorale, et dans ces cas-là, il n'a pas à prendre parti, ou bien alors il est expert, et dans ces cas-là, il change sa casquette de côté. Parce que ce n'est pas parce qu'il est conseiller dans un diocèse que ça va lui donner autorité dans ses arguments scientifiques. D'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote, c'est que j'ai eu le privilège de faire une intervention devant les conférences épiscopales européennes et j'avais tenu ce langage. Et au moment de passer à table, pendant le dîner, il y a un des experts d'une conférence épiscopale étrangère qui m'a dit « Pas facile à entendre ce que vous venez de dire parce que j'ai pris conscience que je n'étais pas expert. » Donc, véritablement, je crois que c'est le concile qui le dit. Le concile, c'est une loi de l'Église. C'est-à-dire, nous n'avons pas, quand nous sommes dans une fonction pastorale, à prendre parti. Par contre, nous avons, et c'est dans le concile également, à discerner les signes des temps. C'est un grand thème du concile. Discerner le signe des temps, c'est l'écologie est un signe des temps. Donc, il est dans la mission de l'Église de discerner qu'il y a un signe des temps. Seulement, on oublie très souvent, quand on cite cette phrase-là, on oublie très souvent la phrase qui suit immédiatement, parce que la mission de l'Église est d'apporter à ces signes des temps des réponses éternelles. Alors, question, est-ce que le réchauffement climatique apporte une réponse éternelle ou est-ce qu'elle est simplement conjoncturelle parce qu'elle est encore en débat ? Hein ? Donc, quand l'Église nous parle d'écologie intégrale, elle est dans sa mission. Quand elle nous dit ce qu'est la création, que tout est trinitaire dans la création, elle est dans sa mission. Quand elle nous dit, elle nous appelle à être centrée sur le Christ, elle est dans sa mission. Mais au risque d'être un petit peu lourd dans mes répétitions, l'Église n'a pas à prendre parti dans le débat. D'ailleurs, la conférence épiscopale européenne à laquelle j'étais intervenu avait été présidée par un évêque, et à la fin de mon intervention, qui avait duré 4 heures, je vais être plus court, je tiens à vous rassurer, avait dit « J'ai retenu une chose, c'est qu'il est urgent que je me taise ». Eh bien, je pense qu'il était totalement dans sa mission de pasteur. Alors, deux mots de climat, parce que imaginons que ce soit faux. Pourquoi est-ce que je... Alors là, je prends une casquette d'expert. Non pas que je sois un expert climatologue, mais j'ai passé des heures et des heures et des heures à travailler. J'ai eu le grand privilège d'avoir un débat privé, malheureusement, il n'était pas public, avec la vice-présidente mondiale du GIEC. Et le GIEC, c'est l'organisation de l'ONU qui organise les COP21 et autres organisations internationales sur le climat. Et nous avons donc pu voir, avec un expert que je connaissais bien, les points de divergence. Alors, je vais vous en raconter quelques-uns pour vous montrer à quel point c'est assez simple de pouvoir se poser des questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que le GIEC n'observe que 150 ans dans ses calculs, il n'observe que 150 ans de données. Pourquoi 150 ans de données ? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec 150 ans, vous ne pouvez pas expliquer le réchauffement climatique qu'il y a eu au Moyen-Âge et qui a permis, ou en tous les cas, c'est un constat que l'on fait, le Groenland était vert. Si vous ne prenez que 150 ans, vous ne pouvez absolument pas dire que c'est pas le CO2 qui a fait que les émissions de CO2 qui ont fait que le Groenland était vert. Donc, il faut aller minimum 1000 ans. Et c'est parfaitement possible. Autre chose, les paramètres. Quand vous faites un modèle, vous devinez, même si vous n'êtes pas un spécialiste de modélisation, vous devinez qu'il faut mettre des paramètres dans le modèle. Eh bien, le GIEC reconnaît que sur 25 grandes agences de modélisation dans le monde entier, 24 paramètrent leur modèle en fonction du résultat qu'ils veulent trouver. C'est quand même... Moi, ça me dérange. Autre chose, quand je leur avais posé une question écrite, est-ce que vous dites qu'il y a 95% de probabilité que ce soit l'homme qui soit le responsable du réchauffement climatique ? Pouvez-vous nous dire, dans les 4000 pages du rapport du GIEC, où est le calcul pour que l'expert avec lequel j'étais puisse aller vérifier le calcul ? Réponse écrite du GIEC, Ce n'est pas une probabilité calculée, c'est une probabilité subjective. Bon. Autre question. Dans leur modèle, ils ne prennent pas en compte les nuages. C'est écrit tel quel dans tous les rapports du GIEC. Nos modèles sont faits par ciel clair et sans aérosol. Les aérosols, c'est des particules fines, c'est des grosses molécules et des particules fines. Eh bien, faire de la climatologie sans prendre en compte les nuages, ça me dérange un petit peu. Mais ce qui est le pire, c'est quand on leur demande pourquoi ils ne prennent pas les nuages en question, réponse, c'est écrit dans le rapport, je pourrais vous donner toutes les sources, c'est parce que ce serait trop compliqué. Alors, dépenser des milliards pour faire des modélisations et renoncer à prendre en compte des paramètres parce que ce serait trop compliqué, là aussi, je suis gêné. Autre chose qui est souvent dite, c'est « Ah oui, mais les choses sont quand même trop graves ». Et donc, on ne peut pas attendre de faire des prévisions et puis d'attendre 10 ans, 20 ans qu'il y a eu une catastrophe et puis que pour faire des prévisions. C'est oublier une chose simple en mathématiques, hein, c'est que vous allez de moins l'infini à plus l'infini en mathématiques, ce qu'on fait un tout petit peu d'algèbre. Donc, si vous voulez faire une prévision, bien sûr, on peut s'amuser à faire une prévision vers le futur, mais c'est très simple de prendre les 150 ans qu'ils retiennent et de dire ben, « faisons une rétro-prévision », c'est-à-dire « reconstruisons le passé ». Eh bien, quand on regarde la manière dont le GIEC fait ses calculs pour reconstituer le passé, il ne trouve absolument pas ni la période chaude dont je vous ai parlé du Moyen-Âge, ni la période glaciaire qui date de Louis XIV, où on, je vous rappelle, on cassait des tonneaux à la hache tellement ils étaient gelés, et les tonneaux de vin, et ça s'est terminé à la Bérésina, dont tout le monde sait qu'il faisait pas spécialement chaud. Hein. Donc le GIEC est incapable de reconstituer le passé. Donc comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui est pas capable de prévoir de reconstituer le passé pour prévoir l'avenir? Là aussi, il y a des choses gênantes. Bon, donc, moi, en gros, ce que je voudrais simplement vous dire, je ne cherche pas à vous convaincre que c'est le soleil, parce qu'il y a des experts qui arrivent à expliquer tout d'une manière chiffrée, quantifiée, que c'est les cycles d'activité solaire. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche simplement à vous dire, et à dire en particulier aux responsables de pastoral, le débat est loin d'être clos. Et d'ailleurs, en science, les débats ne sont jamais clos, premièrement. Deuxièmement, ne prenez pas parti. Je ne veux pas faire la comparaison avec l'affaire Galilée, parce que l'affaire Galilée n'est pas du tout celle qu'on croit. Le pape de l'époque était parfaitement conscient que Galilée avait raison. L'affaire Galilée est un montage du XIXe siècle pour tourner l'Église en ridicule. Mais ne faisons surtout pas une pseudo-affaire Galilée de l'affaire climatique. Donc, ne prenons pas parti sur ces questions-là et engageons une pastorale, une vraie, qui aille encore plus loin. Parce que si la vérité, c'est que c'est le soleil, eh bien, moi, j'ai envie de dire, la vérité me rendra libre d'aller encore plus loin dans l'écologie intégrale et de mobiliser les chrétiens et les hommes de bonne volonté vers une vraie évangélisation de la création et une vraie écologie. Si c'est une écologie qui fait peur, eh bien, ce sera contre-productif. Bien. La troisième chose, c'est d'appeler toutes vos instances de pastorale à organiser des débats contradictoires. Tout à l'heure, je vous posais la question, imaginez une seconde que ce ne soit pas la faute de l'homme, le réchauffement climatique ne soit pas la faute de l'homme. Mais j'imagine bien que vous ayez beaucoup de difficultés à imaginer ça. Parce que tout le monde pense au consensus en disant, mais enfin, il y a des milliers et des milliers d'experts qui disent la même chose, donc c'est forcément vrai. Or, autant le consensus, quand il s'agit du consensus social, c'est un bénéfice parce que c'est une forme d'amitié civile qu'il faut essayer de développer, parce que on peut pas vivre en organisant le débat et la haine perpétuelle. Mais par contre, en science, le consensus n'est qu'un argument d'autorité. Hein, vous savez, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, comme dit la chanson. Ça ne fait pas un argument, ça. Ça n'apporte aucune autorité aux arguments. Un consensus, d'ailleurs, si vous ouvrez le Larousse, vous verrez que le consensus n'est pas du tout ce qu'on imagine. Nous, on imagine qu'un consensus, c'est le contenu d'un accord. Eh bien, dans le Larousse, vous allez voir que c'est surtout la procédure pour avoir un accord. Eh bien, en science, ce n'est pas une procédure. Pour avoir la vérité scientifique, le consensus n'est pas une procédure adaptée. Ce qui est adapté à la méthode scientifique, c'est la méthode expérimentale. Dans des sujets comme le complexe, comme le climat, c'est pas forcément la méthode expérimentale, mais il y a d'autres méthodes. Mais en tous les cas, le dialogue contradictoire est fondamental pour faire avancer la science, et le dialogue n'est jamais clos. Valérie Pécresse avait dit un jour, après un débat sur la question climatique entre Allègre et l'Académie pontificale, l'Académie des sciences, avait dit « le débat est clos ». Ça fait quand même rire qu'un ministre de la science ose dire qu'en science, un débat puisse être clos. Donc il faut, et je pense que la pastorale qui a pour but de rassembler les chrétiens, eh bien, il faut organiser ces débats contradictoires, et c'est pas simple. Bien, qu'est-ce que je voudrais également dire je répondrai pas mal à vos questions. Oui, alors quand même, les pollutions locales. Alors, celles-là, c'est vrai, il y en a vraiment trop, et je dirais surtout dans les pays pauvres, parce que c'est quand même un constat que l'on peut faire. D'ailleurs, il y a des études qui montrent bien que plus le produit intérieur brut des pays est élevé, plus le niveau écologique de propreté, et les eaux américaines dans les rivières sont très très, très beaucoup plus propres qu'en Inde ou en Chine. Hein ? Donc, les pollutions, il faut favoriser le développement économique. Hein ? Je reviens en arrière un instant, parce que je voudrais insister là-dessus. Sur les pollutions planétaires, on pourrait se dire, mais en pastoral, on peut dire, oui, ben, c'est pas très grave, on peut faire des éco-gestes pour limiter les émissions de CO2, c'est pas très grave, qui peut le plus, peut le moins. Mais je vais jusqu'à dire que quand on condamne et qu'on fait des modèles pour dire aux pays les plus pauvres de ne pas nous copier et de faire de mettre en place des économies décarbonées, mais c'est criminel. Parce que imaginez-vous que vous allez pouvoir développer des tout à l'égout, des routes, des voies ferrées, des silos à grains, sans émettre de CO2. Mais attendez, le Nord voudrait condamner les pays du Sud à la pauvreté, ils s'y prendraient pas autrement. Et c'est pour cela que je dis la vérité peut m'amener à aller beaucoup plus loin, parce que à partir du moment où je vais me dire, mais entendre le cri des pauvres, c'est dit dans Laudato si, hein, mais si je ne vois pas que le cri des pauvres, ils vont devenir encore plus pauvres avec des économies décarbonées, ça a quelque chose de pire et d'encore plus vicieux, c'est que on ne voit plus du coup quelle est la cause et la vraie cause de la pauvreté. C'est notre mode de commerce international qui fait que, en supprimant des frais de douane, le blé européen arrive à Dakar moins cher que le sorgho pour descendre de 100 km. Hein ? Tout ça pourquoi ? Parce qu'on a supprimé les frais de douane. Alors, là aussi, j'ai envie de dire, le Nord, en plaidant pour le commerce international sans frais de douane, eh bien, il va rendre les pauvres encore plus pauvres. Et ça, on ne le voit pas. Alors, je suis en train de tenir un discours qui est très, très difficile. Parce que quand j'ai un public d'agriculteurs européens devant moi, et que je suis en train, d'une certaine manière, de dire ben, les débouchés de votre blé européen, qu'est-ce qu'on va faire de nos excédents de blé ? Seulement, c'est facile. La réponse n'est pas facile, mais c'est quand même facile d'avoir des débouchés qui tuent les agricultures du Sud. Hein ? Donc, entendre le cri des pauvres, c'est quelque chose de très important, et il faut se méfier de nos écologies qui vont rendre les pauvres encore plus pauvres. Alors en revanche, donc je reviens pas là-dessus, les pollutions locales, il y en a énormément, et je vais vous en citer quelques-unes, Bhopal, Seveso, Tchernobyl, les exploitations de mines de coltan, je sais pas si vous savez ce que c'est que le coltan, ça sert dans les téléphones portables, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des photos de ces mines. C'est absolument abominable à regarder. Hein, vous avez des terriers de lapins, où vous avez des enfants qui sont dans de la boue, c'est épouvantable. On vous montre ça avec des photos, c'est assez désagréable parce que on nous dit et en plus il y a la déforestation. Moi je regarde surtout les enfants, les femmes violées parce que vous avez le Burundi, vous avez le Rwanda, vous avez le Congo, tous les pays limitrophes. Se précipitent sur ces mines, se font la guerre, violent les femmes, c'est immonde. Alors avant de me parler de déforestation de ces zones-là, faudrait quand même regarder les dégâts. Hein. Alors certes, il y a un impact sur la nature, mais toutes les pollutions locales, elles ont d'abord une conséquence humaine. Tchernobyl, aujourd'hui c'est un haut lieu de la biodiversité. Hein, vous avez des tas d'espèces, comme plus personne ne veut y aller, toutes les espèces se développent. Hein. Mais je ne suis pas en train de vous dire que Tchernobyl est un bien. Tchernobyl a été un désastre d'abord humain. Hein. Seveso, n'en parlons pas. Bon. Et donc, ce sont les pollutions locales sont d'abord des désastres humains. Quand je pense aux terriers des mines de coltan, ben vous savez, ça me faisait penser à Verdun. Vous allez aujourd'hui à Verdun, quand notre imaginaire européen, c'est de voir le désastre humain, la boue, les terriers, les soldats qui étaient là-dedans. C'était un désastre humain, mais aujourd'hui, où est le désastre écologique à Verdun ? La nature a repris ses droits. Donc, les pollutions locales, il faut d'abord tout de suite penser à l'homme, parce que la nature, elle a une forme de résilience, elle est forte. Donc si j'avais un slogan à donner pour terminer là-dessus, je dirais sur toutes ces questions-là, je n'aime pas beaucoup le slogan « penser global, agir local ». Parce que penser global, c'est tout de suite penser les pollutions planétaires, etc. Je suis beaucoup plus sur « penser local, agir local ». Je vais vous donner un exemple. Quand il y a des inondations dans le Languedoc, j'avais étudié cette question-là au moment où il y a eu des inondations, alors on entend les journaux qui disent « Ah, le réchauffement climatique, il y a eu des orages ». Alors voilà, on est dans le penser global et puis agir local. Bon. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les petits ports intermédiaires qui étaient un peu dans les embouchures n'existent plus. Du coup, on ne cure plus. Il y a plus on ne cure plus les embouchures. Donc l'eau qui arrive d'amont a du mal à s'écouler. On n'a plus d'agriculteurs pour nettoyer les bordures. On refuse de faire des barrages en amont pour essayer de garder l'eau en surplus qui arrive. Ce n'est que des problèmes locaux. Donc il faut penser local, agir local. Voilà, donc je vais terminer là mon entretien en revenant sur l'écologie divine. Parce que Laudato Si, lui aussi, évoque cette vision eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps. Je vous lis le texte de Laudato Si. « Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Et il y a un autre passage, au paragraphe 236, où le pape François dit « La création est tendue pour vers la divinisation ». Lui aussi le dit. Hein, « Vers les saintes noces, vers l'unification avec le, Créateur lui-même. Nous allons être unifiés avec le Créateur. » Donc, tout cela, je voudrais vous citer également Monseigneur Crépaldi, en conclusion. Monseigneur Crépaldi est l'évêque de Trieste, que j'ai eu le plaisir de rencontrer là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il a été le secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, qui, je vous le rappelle, est en charge des questions en particulier écologiques. Et il a fait un commentaire de Laudato Si que je vous lis. Laudato Si est une encyclique christologique. Beaucoup de commentateurs laïcs ont retenu une approche superficielle de Laudato Si, interprétation placée au niveau des problèmes d'une encyclique laïque, tant dans sa langue que dans les thèmes, mais les préoccupations sont toujours en discussion. La spiritualité écologique a un centre qui n'est pas l'écologique, mais qui est le Christ. Surgit ainsi une spiritualité écologique qui n'a rien à voir avec les tendances ou avec le nouveau consumérisme syncrétique écologiquement durable. La conversion écologique, dit Mgr Crépaldi, a été lue comme une conversion de l'écologie à l'écologie, pardon, presque comme si la Terre, la planète et les facteurs d'équilibre environnemental étaient l'objet de la conversion. La conversion consiste dans l'observation de la création en Dieu, dans son plan de salut et à la lumière de la providentielle volonté et non pas dans l'adhésion à des formes d'écologisme. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie et je peux répondre à des questions.
Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Vous voulez réagir ?
Pourquoi cet engouement autour de l'affirmation selon laquelle le réchauffement climatique est lié à l'activité de l'homme, comme le dit le GIEC ?
Alors pourquoi l'engouement ? C'est pas la même question. Pourquoi le succès ? Ben, je pense que c'est simplement une question de matraquage. Quand je vois que tous les jeunes défilent derrière Greta, je suis effondré. Quand je vois que la grande chaîne américaine de CNN a été faire appel à Greta comme spécialiste du coronavirus pour une émission de télévisée, je me dis que c'est pas simplement parce qu'il y a un engouement derrière, il y a un succès. Bon, l'engouement, c'est une chose. La question, c'est le pourquoi. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a un piège dans lequel il ne faut pas, me semble-t-il, tomber. C'est dans le piège du complotisme et de dire « il y a un complot ». Il n'y a pas de complot, mais il y a des formes de courants de pensée qui sont très bénéfiques pour des gens qui, en fait, ne complotent pas puisqu'ils se font la guerre entre eux. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez le malthusianisme. Il y a trop de monde sur la Terre. Donc, pour le prouver, vous pouvez lire des rapports de Monsieur Kissinger, qui expliquait très très bien que les ressources naturelles étant en Afrique, c'était un problème vital pour les États-Unis et qu'il fallait donc absolument réduire la population de l'Afrique parce que sinon ces peuples se soulèveraient et exigeraient une augmentation des prix des matières premières. Et que donc, il fallait réduire la population. Mais qu'on ne pouvait pas le dire comme ça, disait Kissinger, et que pour cela, il fallait trouver des bonnes raisons de réduire la population. C'était en particulier les questions écologiques. Et il ajoutait, bien entendu, ce n'est pas nous, Américains, qui pouvons le dire, il faut absolument mettre l'ONU en première ligne sur ces thématiques-là. Donc, une des premières raisons, c'est une forme de malthusianisme. J'ai évoqué une deuxième raison, c'est l'égoïsme économique du Nord et du Sud. Hein, je ne vais pas y revenir. Je pense qu'il y a là aussi des raisons très claires. Il y a des raisons philosophiques, voire religieuses. C'est tellement commode d'abattre le culte que les peuples rendent au Créateur, il suffit de rendre un culte à la créature, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc il y a des tas de courants. Alors il y a également, bien entendu, à problème global, gouvernance mondiale. Hein. Donc, étant donné que toutes ces grandes pollutions planétaires sont des problèmes qui dépassent les États, le meilleur moyen de promouvoir une gouvernance mondiale, c'est de tuer les États, puisqu'ils sont incapables de résoudre les problèmes. Donc, j'avais envie de dire bonjour la subsidiarité et bonjour la démocratie dans des gouvernances. D'ailleurs, vous voyez que dans le Corona, on est un peu dans les mêmes sujets. Hein, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, les modèles mondiaux, etc., c'est quand même très très curieux. Alors je le répète, ces gens-là, les Malthusiens, la gouvernance mondiale, tous ces gens-là se font la guerre entre eux. Et ils sont incapables de comploter. Moi, je dis souvent, il y a un comploteur là-dedans, vous l'imaginez bien, c'est le grand diviseur, hein, qui nous manipule tous. Mais il n'y a pas de complot, mais ça profite à tous ces gens-là, me semble-t-il.
Est-ce que les ressources naturelles ne s'épuisent pas et est-ce que la planète pourra nourrir tout le monde ?
Je vais encore choquer. Les ressources naturelles ne sont pas limitées. D'abord, le mot limite, si on ne dit pas limite en quoi, on n'a rien dit. Je vais vous prendre un exemple. L'âge de pierre s'est terminé avant qu'il n'y ait plus de pierre. Il y a encore plein de pierres. L'âge de pétrole finira, il y aura encore plein de stocks de pétrole. Je dis souvent en riant, je porte un chrysanthème à mon arrière-grand-père qui nous avait gardé des stocks de tourbe. Ça me fait une belle jambe. Autrement dit, les ressources naturelles que l'on voudrait garder pour les générations futures, ça ne tient pas debout. On nous fait peur, une fois de plus, avec ça, qu'on va manquer de ressources naturelles. Et si vous lisez le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui a été écrit par Mgr Crépaldi, dont je parlais tout à l'heure, il met dans la liste des ressources naturelles l'intelligence humaine. Hein ? Donc, je vais vous donner une comparaison que j'aime beaucoup. C'est un piano. Alors, il y a peut-être des musiciens. Il y a combien de cordes à un piano ? C'est 50, 60, je ne sais pas combien. En tous les cas, le nombre est limité. Il y a une infinité de compositions d'orchestres à faire avec un piano. Ça veut dire que nos ressources naturelles, bien sûr, si on les regarde en stock, en flux, entrée, sortie, stock, elles sont limitées. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'homme. L'homme, il fonctionne avec son inventivité et donc, de ce côté-là, il y a une infinité de manières de jouer des ressources naturelles. Hein ? Par exemple, si un jour ça devient une ressource naturelle devient rare, eh bien, donc elle deviendra chère à exploiter, eh bien, on améliorera le recyclage. Toc, on va jouer une autre forme de musique. Donc, dire que les ressources naturelles sont limitées, que je sache, les mines de fer ne partent pas sur la Lune. Donc, il y a 36 manières de faire. Alors, c'est du travail, il peut y avoir à certains moments des pénuries, des souffrances. La vie n'est pas simple, mais arrêtons d'avoir peur.
À ce stade du débat, la salle s'interroge sur la question de savoir si le conférencier, sans doute parce qu'il veut convaincre, n'est peut-être pas un tout petit peu trop catégorique et excessif, même s'il a le mérite de challenger les thèses du GIEC en tant que vérité peut-être un peu trop officielle et trop facilement admise sans discussion. Sur ce thème, le père Guy Rougerie l'interpelle. Ne pensez-vous pas que nous consommons de plus en plus les uns et les autres, que nous avons besoin de recycler nos déchets ? Il ne faut pas démonter aussi grossièrement les mécanismes de ce que vous présentez. Moi, ce que j'ai entendu dans l'encyclique, c'est que tout était lié et que tout m'est donné. Et votre discours peut faire apparaître que nous sommes les maîtres du monde, que nous pouvons continuer, comme d'habitude, sans rien changer de notre pratique. Eh bien, le Dieu auquel je crois, il m'invite à accueillir que tout m'est donné, que tout est fragile et que tout est lié.
J'entends tout ce que vous dites, tout est lié, en tous les cas, pas forcément par des relations de cause à effet. Non. C'est plus compliqué que ça. Que les choses soient complexes, je ne vais pas dire le contraire. Mais si vous voulez, j'aime bien la parabole des talents. Et la parabole des talents, ça consiste à dire, par exemple, le maître donne à l'homme de la préhistoire en Mésopotamie un talent. Et il revient en disant, ben oui, j'ai sélectionné le blé, j'en ai fait un peu mieux, la population est montée à de quelques un million, deux millions à quelques centaines de millions, etc. On a inventé la roue. Je te rends ton talent avec tout ça en plus. Bien heureux. Le deuxième, c'est le Moyen-Âge. Ah ben, j'ai inventé l'imprimerie, j'ai fait ceci, j'ai inventé la thermodynamique, j'ai inventé... Bon. Et la population est montée. Et puis maintenant, on est dans... Tu es béni. Et puis maintenant, il y a un peu le discours. Là aussi, vous allez me dire que je fais une caricature, mais il y a un peu le discours. Ben, tu m'as donné un talent, je te l'ai bien astiqué, il est tout propre, et maintenant, on bloque la population, on est dans un plafond... Et ben, le Christ va dire non. Si vous voulez, tout le discours, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'il en sera quand nous serons, alors on est 9 milliards, quand nous serons 15 milliards? Est-ce qu'il y aura un problème de ressources naturelles? Est-ce qu'il y aura des problèmes de déchets? Est-ce qu'il y aura... Mais l'homme aura trouvé des solutions.
Qu'en est-il des ressources en eau?
Alors, l'eau. Quelques minutes sur l'eau. Il faut savoir de quoi on parle. L'eau, j'en consomme, j'en bois, une unité. Il ne faut pas oublier que c'est la guerre entre le rat des villes et le rat des champs, parce que l'agriculteur, pour manger ce que je mange, est obligé de mettre 10 unités. Par personne, hein. 10 fois plus. Alors, quand on commence à avoir une pénurie d'eau, on dit « Ah, les agriculteurs, ben, heureusement qu'on leur met de l'eau, heureusement qu'ils se servent, parce que sinon, j'aurais pu à manger. » C'est simple. Hein. Et puis, l'eau qui est disponible, il faut à peu près le double pour... il faut 2 unités pour l'industrie et tout ça. Et la pluie, c'est 10 000. Donc, il ne manque pas d'eau nulle part. Ce qui manque, c'est l'accès à l'eau. C'est un problème économique. Ce n'est pas un problème écologique. Et je vais vous dire une chose qui est gravissime. C'est que comme aujourd'hui, un agriculteur qui produit les céréales qui sont nécessaires pour que je me nourrisse, de temps de mes grands-parents, ils stockaient une année de blé dans leur grenier. Avec ce que je viens de vous dire, ils stockaient de l'eau. Maintenant, c'est stock zéro, mondialisation, il ne faut plus de stock. Alors, ben comme on n'a plus de stock d'eau dans le grenier, il va bien falloir un jour qu'on mette des stocks d'eau pour avoir accès à l'eau, parce qu'il y en a, dans des réserves d'eau. Seulement, allez poser la question à quelques écologistes et vous allez voir comme c'est populaire de faire des réserves d'eau. Mais il y a pire. C'est que, comme le blé, je l'exporte en Afrique, j'exporte de l'eau. Et qu'est-ce qui va faire que en Afrique, comment faire pour que l'Afrique investisse dans l'accès à l'eau? Ils n'ont plus d'agriculture à cause de la nôtre. Hein? Du coup, il n'y a plus un investisseur qui va investir dans l'accès à l'eau. Or, s'il y avait une agriculture viable en Afrique, eh bien, il y aurait des investissements pour produire les 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ils auraient accessoirement accès à l'eau dont ils ont besoin pour boire le 1 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez à quel point c'est dramatique, ce cercle vicieux. Parce que tout à l'heure, vous disiez, vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas de problème. Attendez, je suis en train de souligner des sacrés problèmes, je suis en train de souligner à quel point il faut changer. Nous devons changer des tas de choses.